Et à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous, mardi 15 août, comme vous le savez déjà, Clotilde essaye au micro de Canal M pour vous présenter ce magazine Aime l'été, avec aujourd'hui toutes sortes de sujets aussi différents les uns que les autres. D'abord, nous allons aller à la rencontre de Barbara Aubie, qui est professeure de ballet à Moncton. Et puis ensuite, nous allons découvrir un peu mieux le magazine Le Bel Âge avec sa rédactrice en chef qui s'appelle Aline Pixteren. Et puis en studio, nous allons recevoir Daniel Oud alors que France Rochon sera au téléphone. Le premier n'est pas en situation de handicap, la seconde l'est. Il s'agit de cette invitation aux personnes en situation de handicap à se joindre à la parade de la fierté gay, de la fierté donc Montréal, dimanche prochain. Et nous finirons par un sujet, ma foi, bien sérieux avec Jean Lambert, qui, vous le savez maintenant peut-être, siège sur la commission sur les soins de fin de vie et qui nous éclaire depuis déjà quelques chroniques sur le comment, du pourquoi, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut accepter. Le sujet aujourd'hui, quand on parle de l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, Clotilde Seille aime l'été, c'est parti. Et bien sûr, on commence avec quelques nouvelles auditions en danger dans les festivals. En France, il va y avoir une loi anti-décibels. Quelle bonne idée! J'avais décidé de commencer par ça aujourd'hui parce que depuis le début de l'été, autour de nous, hein, que ce soit à Montréal ou même partout, les festivals fleurissent au Québec. Et encore récemment, j'étais près d'une scène et j'avais beau m'éloigner, j'étais incapable de rester là. Ça m'aurait vraiment pris des bouchons de cire. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh, ce serait peut-être une bonne idée aussi pour le Québec ». Discothèques et festivals, pardon, écrit-on dans handicap.fr, vont devoir se soumettre à une réglementation plus stricte concernant le niveau sonore de la musique qu'ils diffusent selon une série de mesures publiées le 9 août 2017 au Journal officiel qui vise à protéger l'audition du public. Le niveau sonore moyen mesuré sur 15 minutes ne pourra plus dépasser 102 décibels, détaille le décret, alors que le niveau en ce moment maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Lorsque le public visé est constitué d'enfants jusqu'à 6 ans, la limite est établie à 94 décibels. Pour assurer un meilleur respect de ces niveaux, les endroits concernés devront afficher en continu le niveau sonore, l'enregistrer et tenir ces enregistrements à disposition en cas de contrôle. Ces obligations d'affichage et d'enregistrement s'appliquent à toutes les discothèques et à tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée à titre habituel et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. Le décret comporte aussi plusieurs mesures de prévention. Les lieux concernés devront informer le public sur les risques auditifs, mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives du type bouchon d'oreille et créer des zones de repos auditif ou à défaut, ménager des périodes de repos auditif. Ça va loin, hein, durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels. Selon le Centre d'information et de documentation sur le bruit, notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels pendant 8 heures. Traiter le TDAH associé pourrait réduire les comportements impulsifs. C'est un papier de Jean Siak dans la presse Plus. Les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette, le SGT, qui ont aussi un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, ont plus de problèmes d'inhibition ou, si vous préférez, d'autocontrôle. C'est ce que conclut une méta-analyse réalisée par une équipe de chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le dossier, publié dans la revue Neurosciences et Bio-Behavioral Reviews, on va le dire comme ça, passe au crible 61 études mesurant la capacité d'inhiber une réponse motrice ou verbale de plus de 1700 patients atteints du SGT. Conclusion. Ce déficit d'inhibition est bien réel et il entraîne des comportements impulsifs, surtout auprès des patients aux prises avec un TDAH. Notre but premier était de démêler la littérature scientifique, parce que sur la question des mécanismes d'inhibition, les résultats vont dans tous les sens, dit Simon Morin-Beaulieu, l'auteur principal de la méta-analyse et doctorant au département de neurosciences de l'Université de Montréal. Il y a une théorie selon laquelle les patients atteints du SGT parviennent avec le temps à diminuer ou à cacher leur tic, précise Simon Morin-Beaulieu, au point où ils deviennent des experts dans le contrôle de leur comportement. Cette expertise les amènerait à avoir une meilleure capacité d'inhibition que la population en général. Je ne conteste pas ce phénomène, mais l'analyse des résultats de 61 études sur le sujet démontre que dans la majorité des cas, il y a un déficit d'inhibition. L'autre conclusion de cette méta-analyse dit que les déficits d'inhibition tendent à diminuer avec l'âge, comme les tics et les TOC, troubles obsessionnels compulsifs d'ailleurs, une évolution liée à la maturation des régions frontales du cerveau qui entraîne un meilleur contrôle des inhibitions, dit Simon Morin-Beaulieu. La série de capsules web Tourette et compagnie, lancée au mois de mai dernier, se poursuivra à l'automne. Le projet mené par la chercheuse québécoise Julie Leclerc vise à mieux faire connaître cette maladie. 5 capsules d'environ 5 minutes seront mises en ligne. À partir du mois de septembre, elles aborderont les thèmes suivants: les émotions et la famille, les tics et les troubles associés, le regard des autres, l'intervention et le traitement. Le programme Challenger, c'est un coup de cœur du journal L'Express.ca. Lorsque j'ai mis les pieds au parc des bénévoles lundi soir dernier, écrit Jonathan Abachi, afin d'assister à une partie du programme de baseball adapté, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vite été impressionné par l'action et l'émotion qui régnaient sur le terrain, sur le banc des joueurs et dans les gradins. Tenu à bout de bras par des bénévoles passionnés un peu partout à travers le pays, le programme Challenger offre aux jeunes handicapés la possibilité de s'amuser en jouant au baseball dans une catégorie créée spécifiquement pour leurs besoins particuliers. À Drummondville, cette activité existe depuis maintenant 7 ans et fait le bonheur d'une vingtaine de joueurs de tous âges. Pour Jérémy et ses copains, pas question de manquer un match d'une durée d'une heure. Les rencontres ont lieu une fois par semaine. À l'époque, il n'y avait rien pour faire bouger les jeunes handicapés, dit le papa d'Anthony qui souffre du syndrome de Joubert. Il est âgé de 13 ans. Ni le soccer ni le hockey n'offraient de programme adapté, mais mon fils Anthony voulait imiter son frère Samuel. C'est son idole. Alors, pour trouver d'autres joueurs, on est allé porter des pamphlets dans les écoles de la région et c'est comme ça que le programme Challenger a vu le jour ici, raconte Patrick Nadeau. Chance certaine, on ne va pas arrêter. Les jeunes sont trop attachés à cette activité. C'est un moment qu'ils ne veulent manquer pour rien au monde. Elle s'appelle Barbara Oubi et lorsque ma camarade Christiane Campagna m'a parlé d'elle, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait à tout prix que je vous la présente sur les ondes. Pourquoi? Parce qu'elle est professeure de baladie pour les personnes âgées à Moncton. Bonjour Barbara.
Bonjour.
On vous appelle Barb, hein?
Oui, mes amis m'appellent Barb, mais Barbara, c'est correct.
C'est correct aussi, hein? Racontez-moi votre histoire, Barbara. Comment peut-on en venir à penser, tiens, on va faire du baladie avec les personnes âgées?
Ça fait déjà 20 ans que j'enseigne le baladie ici à Moncton.
Oui.
Puis j'ai toujours eu des femmes de tout âge dans mes cours pendant tout ce temps. Une des femmes qui a pris mes cours ici, et là, c'est ma mère. Uh-huh. Tu sais, ma mère, elle est âgée de 81 ans.
Oui.
Puis là, ça fait quelques années qu'elle disait, OK, ben j'aimerais ça faire un duet avec un duo,
ouais,
avec toi dans le spectacle fin d'année.
Ouais.
Puis là, il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans passés, j'ai dit, OK, maman, si que si qu'on va faire ça là vraiment, si qu'on va vraiment le faire, mais on va commencer au mois de septembre. Mm-hmm. Puis le plan, c'est que j'irai chez toi chaque 2 semaines environ. On fera des exercices ensemble. Mm-hmm. J'ai un outil que je lui ai donné pour qu'elle pratique à la maison entre-temps. Mm-hmm. On a vraiment travaillé ensemble là, au mois de janvier, février. Oui. Là, j'ai commencé à l'enseigner une chorégraphie que j'ai créée spéciale pour nous deux.
Oui.
À un autre moment donné, on a été en ligne, puis on a fait du shopping, on s'est commandé un costume.
La totale.
Exactement, c'est un aspect.
Voilà maman avec le ventre à l'air, parce qu'on ne couvre pas le ventre à ce moment-là.
Avec moi et ma mère, on a choisi évidemment un costume qui... Parce qu'il y a différents costumes qu'on peut utiliser.
Oui.
On a choisi un costume qui... robe baladie, qui nous couvre de la tête aux pieds.
D'accord.
Puis on a fait notre duet au mois de juin.
Oui.
C'était 3 minutes et 20 secondes peut-être le tout.
Oui.
J'étais tellement fière de ma mère là. Puis elle aussi, je pouvais voir, elle dit, tu sais, les premières secondes, j'étais très nerveuse, mais une fois que j'ai commencé à danser, elle brillait là. À un moment donné, je la regardais lorsqu'on dansait, je pensais que j'allais pleurer.
C'est vrai!
C'est super beau.
Oh.
Puis, je peux voir la différence que ça fait avec elle, avec sa confiance, avec...
Ah, voilà! Parce que là, c'est la partie aussi qui m'intéressait. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, du coup, vous avez ouvert votre classe à d'autres personnes, âgées aussi.
Oui.
Parce que, alors, le baladi, c'est ça, ça... Voyons, ça nous amène à quelle qualité, à quelle... J'arrive pas à trouver le mot, mais ça change quoi dans une vie?
Ben, moi, je pense qu'il y a des changements au niveau physique. Comme par exemple, si qu'on fait, particulièrement pour les personnes aînées, ça peut améliorer la santé cardiovasculaire, l'équilibre, la force musculaire, la coordination et la mobilité en général.
Ça demande beaucoup de cardio, le baladi?
Ça peut.
Ah, c'est ça, oui, d'accord. Oui,
ouais.
Oui, ça dépend à quel niveau.
Oui, dans mes cours pour les femmes aînées, comme j'essaie de faire ça à un niveau qui est très bien pour elles. Tu sais.
Bien sûr, bien sûr.
Mais aussi, je pense que ça donne aussi... Parce qu'il faut se souvenir des mouvements, ça va travailler le mental. Ça va travailler aussi au niveau des émotions. Si qu'on travaille quelque chose de semaine en semaine, puis qu'on arrive à du point A au point B, le niveau émotionnel, la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité de développer le mouvement, tout ça, je pense que ça fait une différence aussi à un niveau émotionnel,
à un niveau mental.
C'est pas que le physique vient chercher.
Mais non. Est-ce que vous en avez qui sont particulièrement douées et tout d'un coup elles se révèlent? Puis c'est ça, est-ce qu'elle se transforme complètement?
Mes cours pour les femmes plus âgées, ça fait que 2 ans qu'on est là.
D'accord.
So, la manière que je vois mes étudiants tout de suite, c'est que je peux voir la différence des premières semaines jusqu'à maintenant.
Maintenant, oui.
Je pense pas que c'est nécessairement que tout d'un coup...
Oui, c'est ça,
elles
non.
Elles sont superstars, mais...
Non, mais je parlais pas d'être star, mais tu sais, là, que tout d'un coup, il y en a une qui se révèle encore même peut-être plus souple que ce qu'elle pensait pour son âge, ou en tout cas...
Oui, ça arrive.
Ça arrive. Hein.
Ouais.
Et quel est le plus grand défi? Quel est le plus grand problème pour faire du baladi lorsqu'on est une personne âgée?
Peut-être c'est tout simplement se donner permission.
Ah!
Tu sais?
Mm-hmm.
C'est... Je pense que y arriver, tu sais, au cours, puis de se donner permission d'avoir l'expérience, puis de danser avec d'autres femmes, c'est une petite vulnérabilité qui a besoin de... En même temps, je trouve que il y en a d'autres qu'à cet âge-là, elles s'en foutent. OK, moi, je vais danser tout de suite, c'est ça que je fais.
mais si elles s'en foutent à cet âge-là, c'est parce que de toute façon, dans leur vie en général, il n'y a pas dû y avoir beaucoup d'inhibition non plus, quoi.
Peut-être, ou rendu à un certain âge, c'est OK, mais
on s'en fout.
Ça, je vais le faire.
Je vais le faire, exactement. Oui. Alors là, vous en avez combien dans vos cours, à peu près?
Tout de suite, j'ai mon cours à mon studio. Il y a à peu près 7-8 femmes qui viennent.
Wow.
Je vais commencer, par contre, j'ai été approchée par un organisme ici à Moncton qui s'appelle l'Université du Troisième Âge.
Oui.
Puis, c'est, ils offrent des cours de grouille-rouille, yoga, etc. Puis,
comment vous dites grouille-rouille?
Grouille-rouille, c'est des cours de mouvement pour les personnes plus âgées.
C'est génial,
oui,
grouille-rouille.
Oui. Puis, ils m'ont invité à donner un cours de baladie à travers de leur...
Wow.
Le leur réseau, ça va être sur le... à travers... ils sont situés sur le campus ici à l'Université.
D'accord.
Puis je vais commencer des cours avec eux. So, j'espère qu'il va y avoir encore d'autres femmes qui vont se joindre
bon.
Avec nous.
Alors Barbara Hobby, professeure de baladie pour les personnes âgées à Moncton. Comment on fait pour vous joindre, Barbara, là, si des gens en ce moment nous écoutent et nous sommes écoutés au Nouveau-Brunswick?
Oui.
Si des personnes sont intéressées à vous joindre, on vous joint comment?
On peut me rejoindre au studio Shafira. Ça, c'est... vous avez indiqué ma page web sur Facebook. J'ai vu ça, c'est super. Le numéro de téléphone, c'est le 506-383-8138. Je suis aussi... j'ai un site web, etc.
D'accord. Donc, pour Studio les... Sephira. Et je vais me permettre d'épeler Sephira, si vous me le permettez, hein, Barbara.
Oui,
Sephira.com.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est ça. Puis, pour les cours qui vont commencer avec l'Université du Troisième Âge, les gens... peuvent s'inscrire à travers de l'université, c'est le 858-4410.
Par le 506.
Oui, 506. Oui. Les cours vont être l'après-midi, tandis que mes cours au studio vont être le matin. Le matin, c'est en anglais, et les cours d'après-midi sont en français.
D'accord, c'est parfait. Ben, merci, Barbara. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, bonjour à toutes vos petites jeunes qui font du baladie en ce moment avec vous.
Ok,
je les embrasse.
Merci.
Allez, au revoir.
Bye.
Dans le doute, tout est faux. Et je m'abstiens de nous. Depuis qu'on s'aime à rebours. Comment suivre le cours? Oh, je le sais, je sais. Briser nos mondes et se battre à tout rompre, larguer nos mots comme des bombes. Mon cœur dur comme l'hiver, mon corps de travers. Oh, dis-moi tout ce que j'espère quand on recolle nos chairs. Oh, je le sais. Je sais, on est blessé, oui, mais pourquoi briser nos mondes et se battre à tout rompre, larguer nos mots comme des bombes? Thank you. chambre, faut désamorcer nos bombes. Oh, protéger les secondes de ce qu'on met au monde et tout ce qu'on leur raconte.
Lily T, hein? Mais c'est, elle est très bonne, cette madame là. C'est incroyable, Jean-Sébastien, le nombre de gens qu'il me fait découvrir, ce garçon-là, qui ont tous un talent fou, qui viennent tous du Québec. Alors, je voudrais les noms. Déjà hier, j'ai bien qu'il y en avait une aussi. Alors, si tu pouvais me noter ça, mon petit bonhomme, je vais aller acheter un disque ou quelque chose du genre. On vient de parler de baladi avec une danseuse de baladi et une professeure de baladi qui enseigne le baladi, vais-je annoncer à Aline Pinksteren, qui est rédactrice en chef du Bel Âge et qui est en face de moi, qui enseigne le baladi à des personnes qui ont 80 ans en montant. Mm-hmm. Bonne idée.
Bonjour,
hein?
Oui.
Bonjour, Aline. Vous allez bien?
Très bien.
Alors, Aline, bah, écoutez, on poursuit sur les personnes âgées. On aime bien, à cette émission-là, savoir ce qui existe comme magazine pour toutes sortes de personnes handicapées ou non, personnes âgées. Et là, vous allez nous parler du Bel Âge, puisque mm-hmm. vous en êtes la rédactrice en chef.
Oui, tout à fait. Je suis la rédactrice en chef du Bel Âge et du journal du Bel Âge, qui est diffusé gratuitement à Montréal. Le Bel Âge, par contre, est diffusé partout au Québec.
D'accord. Est-ce qu'il existe en ligne?
Oui. Tout à fait. On a un site.
Vous avez un site aussi.
Et les abonnements peuvent se faire aussi pour ceux qui veulent sur tablette.
Alors, c'est un mensuel, le Bel Âge. Mm-hmm. C'est un mensuel. Et ça doit être quand même une équipe assez complète au niveau de quoi vous travaillez avec des...
On n'est pas beaucoup à l'interne.
C'est
mais
vrai
on a énorme... Oui, c'est une toute petite équipe à l'interne. Mais
c'est
on
vrai
a... Oui, mais on a beaucoup de pigistes. C'est quand même un magazine qui existe depuis 25 ans maintenant.
Ah oui, depuis 25
ans. Oui. Et la fondatrice, elle l'avait fait parce qu'elle voyait Francine Tremblay. Elle voyait sa maman qui, à ce moment-là, ça a beaucoup changé, mais qui, à ce moment-là, n'arrivait pas toujours à gérer tout ce qui était financier, etc. Et donc, elle a décidé, à ce moment-là, de faire un magazine
D'accord.
pour que tout le monde puisse décoder le droit, la santé, etc. Parce qu'il n'y a rien qui existait pour les 50 ans et plus. À l'époque, ce qui est étrange, c'est que 25 ans plus tard, enfin, ça nous arrange, hein, mais on est toujours les seuls à s'adresser spécifiquement aux 50 ans et plus dans les magazines qui sont vendus en kiosque au Québec.
Ben, sauf peut-être le magazine de la FADOC qui fait
mais ça,
un petit
c'est un
peu...
magazine pour les adhérents. Nous, on
ah,
est vraiment
okay,
un
oui,
magazine
d'accord,
en
c'est
kiosque.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai,
oui,
c'est vrai. Vous êtes les seuls.
Oui, on est les seuls. On est le troisième magazine le plus vendu, en fait. Le plus lu, excusez-moi. Le troisième magazine le plus lu au Québec, selon les sondages tout à fait officiels. Donc après Ricardo et Coup de pouce, c'est nous. Donc ça montre aussi le
Quand
pouvoir
même.
Des 50 ans et plus, dont
mais
on n'a
oui.
pas toujours conscience dans la société. Mais donc oui, on est très, très
Mais
lus.
Absolument, mais faisons-nous entendre,
mais oui.
mesdames et messieurs, s'il oui. vous plaît. Mais remarquez, moi je me fais entendre tous les jours, alors j'ai quand même pas... J'ai quand
mais il y en a
pas
beaucoup qui n'ont pas toujours, justement, non. qui ne se font pas entendre. Donc notre idée, c'est, on n'a pas une... Ma volonté, quand je suis arrivée là depuis 2 ans et demi, ce n'était pas de me lancer dans du lobbyisme ou de la politique, etc. Comme vous disiez, la FADOC fait peut-être plus ça
D'accord.
que nous. Nous, c'est vraiment d'alléger la vie des gens au quotidien, de leur faciliter la vie, de leur donner un maximum d'informations, mais aussi voilà, de les distraire aussi.
Oui,
donc,
oui,
voilà,
oui.
De
oui.
les ouvrir un peu. Il y a un monsieur, quand j'étais une fois allée en résidence, récemment, qui m'avait dit, vous êtes notre fenêtre sur le monde. Et ça m'a vraiment beaucoup
plu. Ça a dû vous toucher
oui.
beaucoup.
Oui, oui, mais c'est vraiment ça qu'on essaye d'être. Ouais.
Exactement. Mm-hmm. Alors, on vous touche à tous les sujets.
Oui.
Il y a aucun tabou.
Non. Ben, je pense que dans celui-ci, justement, j'ai un article
justement.
Sur la sécheresse vaginale. Donc, on n'a aucun tabou.
Non, exactement.
L'idée, on touche à tous les sujets, mais toujours, et c'est ça qui fait notre spécificité, toujours avec une dimension 50 ans et plus, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas abordés par les autres magazines. Et donc, c'est vrai qu'on va, on a vraiment nos piliers, c'est le droit finance, droit argent, donc, et okay. La santé. Mais on aborde effectivement... Des choses qui concernent vraiment notre lectorat.
Alors, par exemple, pour ceux qui nous entendent en ce moment, je vois écrit en première page, hein, il y a comme un encadré, « Argent, dette en héritage, nos solutions ». Et oui, ça arrive, ça.
De plus en plus souvent. De plus en plus souvent, c'est pour ça aussi qu'on voulait voir ben, qu'est-ce qu'on fait. Et parce qu'on s'adresse, c'est un petit peu comme... On s'adresse aux 50 ans et plus, et on s'adresse aux 80 ans et plus.
Oui.
Donc, en fait, on peut hériter de nos parents.
Oui.
d'hériter des dettes. Et exactement. Nos lecteurs sont concernés des deux côtés.
Exactement. Oui. Bravo d'avoir pensé à ça. Et puis, si je lançais mon entreprise, mm-hmm. mais oui, bien oui. sûr que oui. À 50 ans maintenant, oui. on crée des entreprises. À oui. 60 ans aussi, d'ailleurs.
Tout à fait. D'autant plus qu'on a l'expertise. Parfois, on perd son travail, mais on a l'expertise qui est là. Puis, on a des envies aussi. Oui. On a des envies pour la retraite. Donc, on dit aussi, à ce moment-là, nous, on explique aux gens comment ils peuvent faire concrètement pour pouvoir se lancer.
Et donc, vous proposez des solutions. Il y a aussi, je prends la une parce que je trouve ça vraiment intéressant. Cancer, où en sommes-nous?
Oui. Ben, ce sujet-là, pour nous, c'était vraiment... C'est toujours difficile de parler du cancer et je trouve que ça nous touche tous, de près ou de loin.
Oui.
Et donc ici, c'était vraiment... On dit toujours qu'on va trouver, des remèdes. Où on en est, où en est la recherche. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait faire.
Est-ce que les gens vous en proposent, des sujets? Et si oui, qu'est-ce qui revient le plus?
C'est souvent la santé. Oui. Mais j'ai aussi, on a beaucoup, je suis contente parce que nos lecteurs nous contactent beaucoup, ou me contactent mm-hmm. beaucoup parce que j'ai un édito et j'ai vraiment une adresse.
D'accord.
Et je leur demande toujours leur avis et ils me parlent. J'ai beaucoup de bonjour Aline, etc.
D'accord.
Et donc, en fait, oui, quand il y a parfois des très bons angles, des très bons sujets qui viennent et dont on fait des articles. Oui, oui. Bon, surtout quand c'est récurrent. On avait beaucoup de questions, par exemple, qui concernaient, ça peut paraître futile, mais ce qui est mode beauté. Parce que la beauté, après 50 ans, ben les cheveux changent, oui, la texture des cheveux, la texture de la peau,
sûr.
Etc. Il faut des conseils spécifiques. Et donc là, c'est vrai qu'en arrivant, on a quand même 40% de lecteurs masculins, mais il manquait quelque chose pour les lecteurs féminins, les lectrices.
À 40% quand même. Parce
oui,
que je pensais que c'était, pas exclusivement, c'est pas vraiment. Enfin, je pensais qu'il y avait un pourcentage un peu plus élevé de femmes.
Non. Et donc, mais il manquait vraiment des conseils spécifiquement 50 ans et plus aussi. Donc, on a créé ça. Et là, maintenant, par exemple, on a une nouvelle rubrique depuis ce mois-ci.
Oui.
Qui s'appelle Mode d'emploi. J'ai des lectrices et des lecteurs qui m'ont posé des questions. Ici, par exemple, c'est une question que je trouve très pertinente. Comment revenir à sa couleur naturelle? Donc, il y a de plus en plus de personnes qui veulent avoir leur gris, mais ce n'est pas évident quand on s'est teint les cheveux avant. Donc, ça peut paraître futile, mais c'est une question que j'avais énormément de lecteurs qui m'ont posée.
Écoutez, ça s'appelle Le Bel Âge. Mm-hmm. Et vraiment, j'ai le magazine entre les mains. Évidemment, vous le savez, c'est un... Je ne m'en cache pas depuis très longtemps. Je fais partie de ce Bel Âge-là depuis d'ailleurs pas mal de temps. Et vraiment, je vous le dis sans aucune flagornerie, je ne m'étais jamais intéressée de près vraiment à cette revue-là, mais je vais le faire maintenant parce que je trouve qu'il y a des articles absolument passionnants. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Aline Pixterren, vous savez qu'on fait le même métier. Hein.
Oui.
Nous, ici à Canal M, là, on est très, très branchés sur les personnes âgées. Mm-hmm. Merci beaucoup
Merci.
D'être venue avec nous en studio,
Merci.
Aline.
Au revoir.
Aime l'été, la suite. Juste avant de vous présenter mon prochain invité, je voudrais vous lire une nouvelle. Handy Lover, l'outil pour faciliter la sexualité, c'était dans information.handicap.fr. Une vie sexuelle sans tabou malgré le handicap, c'est ce que propose le Handy Lover, un outil d'aide à la sexualité imaginé par l'association Mobility Desire. Ce dispositif d'assistance sexuelle destiné aux personnes handicapées est un produit personnalisable et réglable avec différentes options ergonomiques pour permettre plus de mobilité et faciliter certains mouvements ou positions. Il offre à tous, seuls ou en couple, toutes les possibilités répondant aux orientations et pratiques sexuelles de chacun. Et il a été conçu pour répondre aux recommandations du CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui préconise de faciliter l'accès à des moyens mécaniques de satisfaction sexuelle. Nous sommes en France et où cet outil a été, évidemment, avec un nom anglais comme ça, ça ne pouvait être qu'en France, où cet outil a donc été mis sur le marché. Ce qui m'amène à vous présenter Monsieur Daniel Houle, qui est en studio, et Madame France Rochon, qui, si tout va bien, est au téléphone. France Rochon, vous êtes là?
Oui, bonjour, ça va bien, oui.
Oui, ça va bien, merci France. Et puis Monsieur Houle, donc, Monsieur Houle, quelle est votre activité? Je ne savais pas comment vous présenter dans la vie.
Nous avons initié un groupe de personnes handicapées.
Oui.
Pour... favoriser l'expression de la sexualité des personnes handicapées.
D'accord.
Sans contrainte et librement.
Bon, donc, autrement dit, cette nouvelle qui nous arrive de France, ça pourrait intéresser aussi beaucoup de monde, évidemment, en Europe comme ici. Hein, France Rochon, avez-vous entendu cette nouvelle?
Oui, c'est bien, oui.
Alors, on va donc parler de ce sujet-là qui, aujourd'hui, sera quand même relié aussi à la parade de Fierté Montréal 2017. Est-ce que c'est Fierté Montréal qui vous a invité, monsieur?
Non,
monsieur Wood. Ah, pardon, non. France, vous voulez répondre?
Non, ce n'est pas Fierté Montréal, quoique ils nous ont accueillis avec... Beaucoup de générosité et les bras ouverts, si je peux
dire. Oui.
Non, c'est Daniel et moi.
D'accord.
On voulait organiser, participer cette année à la parade. Alors, c'est comme ça que ça a commencé.
D'accord. Pour marquer la différence.
Oui, c'est bien ça.
Hein? Monsieur Hood, moi, la question tout de suite que je me suis posée, et je pense qu'il est normal que je la pose, est-ce qu'il y a des personnes handicapées gays qui vont manifester?
C'est pas nécessaire d'être gay. C'est ouvert à tout le monde. Notre groupe est ouvert à tout le monde. Ça fait partie de l'expression sexuelle des gens.
D'accord.
Et bon, c'est...
Ouais, c'est pas un prérequis, si je peux dire.
Oui, oui.
Mais c'est sûr que nous... Tout le monde est le bienvenu, la bienvenue. Alors, c'est bien entendu qu'il va en avoir des personnes, des queers, des gens, des transgenres.
Bien sûr. Alors, la question s'impose étant donné qu'il s'agit du défilé de la guétitude, si j'ose l'exprimer ainsi. Donc,
c'est pour ça que
je posais la question, quoi.
Le nom de l'organisme, c'est Fierté Montréal, puis de ce que je comprends d'eux autres, ils sont ouverts à toutes sortes d'expressions sexuelles.
Exactement.
Ça a commencé avec les personnes gays, parce qu'ils étaient ostracisés, mais ils se sont développés actuellement, puis là, ils ont contribué fortement à l'ouverture mentale
exactement.
Des gens.
Et là, ils le prouvent. Hein. Ils le prouvent et on ne peut que les en féliciter. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Avancez-vous bien, hein, Daniel, au micro. J'ai remarqué, pour habiter pas loin, qu'il y a vraiment, pour les personnes handicapées, ils ont vraiment fait attention à l'accessibilité. Par exemple, sur la grande scène. Est-ce que vous êtes allée, France Rochon, participer?
Non.
Pas encore?
Non, je suis pas allée, mais j'ai une amie à moi qui...
Oui.
Aller au spectacle vendredi et puis elle m'a dit que c'était vraiment formidable.
La
scène, elle était accessible.
Ah oui, extraordinaire.
Vraiment, là, je trouve ça merveilleux, surtout à comparer avec les autres événements qu'il y a eu à Montréal.
Bien sûr.
Cette année, lors de la Montréal fête, le
375e.
Je trouve que... Il faut quand même leur dire bravo.
Non, mais c'est pour ça, parce qu'on se plaint tellement souvent quand c'est pas accessible. Alors, quand ça l'est?
Oui.
Je trouve important aussi de le dire. Maintenant, oublions Fierté Montréal et parlons de ce groupe que vous avez constitué, qui s'appelle le groupe Passion et Handicap. Quelle est la motivation, quel est l'objectif, M. Hood, de ce groupe-là?
Ce qu'on veut, avant tout, le but du groupe, c'est d'affirmer le droit des personnes avec handicap d'exprimer leur sexualité librement et sans coercion.
Ça veut dire que vous trouvez que les gens ne le font pas, ça?
Oui.
Hein, France?
Oui, exactement. Ouais.
Vous qui êtes en situation de handicap, parler de votre sexualité, c'est quelque chose que vous n'osez pas faire encore?
C'est pas que j'ose pas en parler, mais je réalise que les gens avec qui j'en parle...
Ça les gêne?
Ça les gêne, ça les rend mal à l'aise. Il y a beaucoup des préjugés envers les personnes handicapées. Alors, c'est vraiment ça.
Oui, c'est ça. Et donc, vous voulez carrément offrir l'occasion de rencontres que vous appelez d'ailleurs érotico-sensuelles, sécuritaires, accessibles. C'est bien ça, M. Hood?
Oui, exactement.
Pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap.
Pour les personnes handicapées, mais notre activité, là, cette fin de semaine, là, notre participation à la parade, on aimerait que les amis soient invités ainsi que les membres de la famille des participants.
Ah, OK.
On veut s'ouvrir à tout le monde. On veut avoir une participation forte de pour affirmer le droit des personnes handicapées d'avoir, de pouvoir exprimer leur sexualité mm-hmm. librement.
Sans qu'on, tu sais, sans qu'on porte un jugement ou sans qu'on se sente mal ou sans, tu sais...
On n'a pas de contrôle là-dessus.
Non, ça, là, c'est sûr.
Mais
c'est sûr.
Il faut que... J'aimerais que la société soit plus ouverte envers ça, mm-hmm. puis qu'elle donne... qu'elle facilite l'accès à des activités pour adultes, à des personnes handicapées.
Oui, d'accord. Mais vous, ça y est, là, vous, c'est ce que vous êtes en train de monter? Est-ce que c'est déjà en place, France Rochon?
Oui, bien, c'est sûr que... Quand moi, j'ai... Faut dire, Daniel a commencé le groupe sans moi au début, et puis, c'est ça, il avait des difficultés à aller chercher des membres, à aller chercher...
Okay.
Et moi, quand je me suis joint à lui, c'est ça. C'est, le but, c'était d'aller chercher des participants.
Oui.
Et, se faire connaître, si je peux dire.
Sortez de votre,
oui,
de votre
ça,
isolement,
femmes,
hein, finalement.
Femmes, hein? Oui, c'est ça. Les faire sortir. Les... Alors, nous, on avait un local ici à Montréal.
Oui.
Très accessible. Tout était avec une rampe. Une salle de bain accessible aussi. Alors, c'est ça, on a fait appel à différents organismes à Montréal pour
d'accord.
leur dire qu'on existait. Et puis, malheureusement, c'est très difficile d'aller chercher des gens pour raisons variables.
Oui, oui, oui.
Mais bon, alors...
C'est la raison aussi pour laquelle, France, hein, si je peux me permettre, il est important que vous soyez visible
oui.
à ce défilé-là, gay ou pas, quoi, pour dire, regardez, nous aussi, on a une sexualité, et puis c'est pas parce qu'on est handicapé, c'est parce qu'on est des êtres humains.
Oui, oui, hein? C'est ça. Mm. Et pour moi-même avoir, dans le passé, voulu me joindre à des groupes ou à des événements à Montréal... Malheureusement, les lieux sont toujours inaccessibles pour mmh. moi.
Mmh.
Alors, c'est pas quelque chose que tu sais, vous savez, Montréal, que ça soit aller prendre un café, aller même dans un restaurant, il y a toujours des obstacles, des masques.
Bien sûr. Oh, nous le savons.
Oui, alors c'est très difficile pour
oui.
moi, pour nous, d'aller briser l'isolement que nous vivons. Alors, mm-hmm.
c'est non,
aussi.
C'est sûr. Mais est-ce qu'on peut imaginer, parlons vrai, là, par exemple, un espace qui soit dédié à pourquoi pas, un échange de sexualité complètement accessible entre personnes handicapées, M. Oud?
Oui, c'est le but de notre
c'est
groupe.
C'est le but du groupe.
Oui, on est capable de...
Bon.
Actuellement, on a des locaux qu'on peut louer.
D'accord.
Puis, moyennant un frais très, très minime... On peut organiser des soirées.
Mais oui.
Puis développer des services.
Bien sûr.
On s'est donné comme, entre autres, on s'est donné comme objectif d'organiser des ateliers de discussion pour
oui.
discuter des problèmes.
D'accord.
Qui sont rencontrés.
Bravo.
On veut organiser des activités pour adultes de mmh. manière à favoriser des rencontres.
Bien sûr.
Puis aussi, on veut sensibiliser la société.
Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, Monsieur Wood, France Rochon. Je suis très très contente que vous soyez venu participer à l'émission. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser la parole, Monsieur Wood. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
C'est que je veux dire que la parade, notre
oui.
point de rencontre, ça va être au 1455 boulevard Maisonneuve.
D'accord.
Entre 10h30 et 11h15, qu'on va former le groupe pour entrer dans la parade.
D'accord.
L'adresse que je vous ai donnée, le 1455 boulevard Maisonneuve-Ouest, c'est l'entrée de l'Université Concordia.
D'accord.
Donc,
okay.
on se rencontre là.
Entre quelle heure et quelle heure?
Entre 10h30 et 11h15. Il
okay.
va quand même avoir un petit délai là, de sécurité, là, mais c'est parce qu'après, il faut s'organiser pour rentrer dans la parade.
Bien
parmi
sûr,
les...
bien sûr. Et j'imagine, oui, on peut s'inscrire, mais on n'est sûrement pas obligé. Venez nombreux. Quoi.
C'est tout le monde, ils sont invités.
Oui.
Il n'y a pas d'inscription nécessaire.
OK.
On avait parlé d'inscription parce qu'on voulait organiser des transports adaptés. Ça, oui, s'est pas donné.
Ça, c'est bon, d'accord.
Donc,
alors, venez en grand nombre. Hein?
Avec vos, oui, familles puis vos amis.
Voilà, exactement. Donc, handicapés ou non, venez pour les soutenir. C'est une première, hein, je pense, à Montréal.
Historique.
Une association comme celle-ci. Et bravo de l'avoir créée, M. Houd. Et bravo à vous, France Rochon. Hein, vraiment. Et ben, écoutez, on se verra sûrement quelque part dimanche prochain sur la parade. Ah, mais il va falloir qu'elle passe assez tôt parce que j'ai peut-être aussi d'autres obligations dimanche. En tout cas,
je vous remercie beaucoup, madame, de vous avoir permis d'être avec vous aujourd'hui.
Mais ça nous fait plaisir, puis il faudra nous donner d'autres nouvelles et on continuera de le faire, France.
Parfait, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci. Because you know I'm all about that bass, about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass.
Yeah, it's pretty clear. I ain't no size, dude. But I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom. That all the boys are chasing. Junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she tells me, don't worry about your size. She said, because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me, don't worry about the size. She said, boys like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, because you know I'm...
Très sympathique, encore une fois. Voyez-vous, c'est ça l'émission Aime l'été. Il a été question aujourd'hui du magazine Le Bel Âge. Il a été question de la sexualité pour les personnes handicapées. Il a été question de maladie pour les personnes âgées. Et il sera question maintenant de soins de fin de vie et plus précisément de l'aide médicale à mourir. Et ce, grâce à Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires, mais aussi qui a siégé à la commission sur les soins de fin de vie. Bonjour, Monsieur Lambert.
Bonjour Clotilde, je précise que je siège toujours à la commission.
Là j'ai dit assiégé. Hein. Ah oui, non, c'est ça, siège encore à la commission, pardon, effectivement. Merci de m'avoir reprise, Jean. Alors, Jean, nous sommes, depuis quelques semaines, vous nous aidez à nous éclairer, à comprendre le comment du pourquoi, ce qu'il faut savoir sur les soins de fin de vie, ce qu'il faut comprendre, savoir et accepter aussi. Et aujourd'hui, on en est rendu à l'aide médicale à mourir. Hein. Quand on parle de AMM, l'aide médicale à mourir, on parle de quoi exactement?
On parle d'un soin. Alors, il s'agit d'administrer un soin à une personne qui en a besoin. Alors, ça peut sembler assez curieux, mais c'est le fondement même de la loi québécoise.
Il faut rappeler
qu'au moment où elle a été adoptée, cette loi, il n'y avait pas encore eu le jugement Carter de la Cour suprême et le code criminel n'était pas encore modifié. Donc, aider une personne à se suicider, et dans le cas de l'aide médicale à mourir, c'est vraiment euthanasier une personne, hein, on lui donne la mort, eh bien, c'est un acte qui, ailleurs et dans un autre contexte, est un geste criminel. Donc, il fallait inscrire l'aide médicale à mourir dans un continuum de soins. Et la question, c'est pour ce patient, cette patiente, au moment où on en est rendu, quel est le meilleur soin à lui administrer pour soulager ses souffrances? Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on parle que l'aide médicale à mourir est un soin.
Exactement, et un soin très balisé.
Bien sûr, on peut comprendre pourquoi. Hein? Les conséquences sont assez définitives. On n'en revient pas. Donc, il faut s'assurer que la personne qui fasse la demande comprend très bien. Mmh. Et la demande doit être encadrée. Donc, on verra tantôt, il y a un formulaire. Et ces balises sont là pour s'assurer qu'on est bien dans le cadre de l'administration d'un soin à une personne qui en a besoin et qui le désire d'une façon claire et définitive.
Alors, succinctement, pourriez-vous nous décrire le déroulement de l'administration de ce soin? On va revenir sur les conditions après.
Alors, tout d'abord, ça débute par une demande formelle faite par la personne elle-même, par écrit, sur un formulaire prescrit. Donc, on ne peut pas demander à une autre personne de faire cette demande. Alors, la personne doit le faire elle-même, non pas son mandataire, non pas son mandataire, mais bien elle-même. C'est formulé sur une demande qui est signée en présence d'un autre professionnel de la santé et c'est adressé à un médecin qui prendra soin d'administrer ce soin, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir. Alors, ce médecin doit d'abord vérifier si la personne répond et est satisfait aux conditions de l'article 26 que l'on va voir tantôt. Et si oui, à ce moment-là, il va requérir d'un confrère médecin une seconde opinion. Et celui-ci se présente au chevet du patient, de la patiente, seul, sans présence de son collègue qui lui a demandé la consultation. Et il doit, ce second médecin, vérifier que la personne est apte et qu'elle satisfait à toutes les conditions prévues par la loi. Et son constat final doit rejoindre celui du premier médecin. Et dans ce cas-là, le médecin qui va administrer l'aide médicale à mourir va fixer la date avec le patient. Et ce jour-là, il y aura administration des substances. Une première qui a pour effet d'endormir la personne. Et la seconde, une fois que le médecin sera bien assuré que la personne est bien inconsciente, un second médicament qui va paralyser le système nerveux, donc arrêter la respiration le cœur de battre et la mort. Et ce médecin qui administre l'aide médicale à mourir doit demeurer présent tout au long du processus. Mm-hmm. Il n'est pas question qu'il quitte la chambre avant qu'il ait lui-même constaté que la personne est bien décédée. Et dans ce cas-là, il sort et doit compléter son rapport qu'il doit faire tenir à la commission des soins de fin de vie dans les 10 jours.
Et quand vous parliez de conditions un petit peu plus tôt, quelles sont ces conditions, Jean?
Alors, la première, évidemment, c'est de compléter le formulaire, la demande par écrit sur le formulaire présenté par le ministre. Donc, ce n'est pas n'importe quel document, c'est un document bien précis. Et il doit y avoir présence d'un autre professionnel de la santé. Alors, un médecin, par exemple, une infirmière, un travailleur social, donc des personnes qui gravitent dans l'orbite des soins de santé au Québec. Et ce formulaire, une fois complété, est transmis au médecin, si ce n'est pas lui qui était présent, au médecin qui va administrer l'aide médicale à mourir. Donc, première question. La deuxième, cette personne doit être majeure et apte, donc 18 ans et plus, malgré le fait que le Code civil prévoit qu'une personne de 14 ans peut consentir seule à des soins. Dans ce cas-ci, la loi fait exception, il faut être majeur et apte. Et cette personne doit détenir une carte d'assurance maladie.
Ah, c'est ça, hein? Valide, hein? Il faut vraiment qu'elle ait une carte d'assurance maladie du Québec valide. Bon.
Oui, la raison, c'est que le législateur québécois n'a pas voulu que le Québec devienne une espèce de Suisse où les gens de l'étranger pourraient venir ici pour demander l'aide médicale à mourir. Ce soin n'est accessible qu'aux détenteurs québécois d'une carte d'assurance maladie de la Régie de l'assurance maladie du Québec.
Bon. Alors, on parle évidemment de fin de vie. On pourrait peut-être vous redemander ce qu'on entend par fin de vie.
Bien oui, parce que la personne qui fait la demande doit être en fin de vie. Mm-hmm. Alors, évidemment, le législateur n'a pas voulu définir ce qu'est la fin de vie. Il l'a fait sciemment, donc a voulu laisser la discrétion aux médecins. Mais le Centre, l'Institut canadien d'information sur la santé définit la fin de vie d'une personne dont l'état de santé décline et qui est considérée comme étant en phase terminale ou susceptible de décéder dans un avenir prévisible rapproché. Alors, c'est ça, la fin de vie.
J'ai lu, Jean Lambert, que le consentement à l'AMM, à l'aide médicale à mourir, doit être libre et éclairé. Qui juge de cet état-là? Comment ça se passe?
Alors, c'est le médecin qui va administrer, mais aussi le deuxième médecin consulté, là, le second qui doit aussi concourir au constat que cette personne est bien admissible. Alors, ce sont ces deux personnes qui en jugent. Alors, donc, personne d'autre. Bon. Et c'est ce que le législateur a voulu, donc, confier à ces médecins. Je dois, Clotilde, revenir un petit peu en arrière.
Oui.
D'autres conditions.
Ah, OK, pardon.
La personne doit être atteinte de maladies graves et incurables. Ah. Alors, donc, un diagnostic qu'on peut qualifier de fatal est émis. Et on est en présence, donc, d'une maladie qui va suivre son cours et avec une issue inéluctible.
D'accord.
La personne doit, évidemment, souffrir d'un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Mmh. Alors, avoir beaucoup, pas être capable, par exemple, de voir ses soins d'hygiène, de vaguer aux soins ou aux activités normales de la vie quotidienne. Mmh. Et elle doit éprouver des souffrances intolérables. Et ce n'est pas seulement que des souffrances physiques, ça peut être aussi des souffrances psychiques.
Bien
psychologique.
Sûr.
Alors, les deux sont admises, il n'y a pas de lien de « et », c'est un ou l'autre, mais c'est souvent les deux.
Jean Lambert, vous le disiez au tout début, vous siégez encore à la commission des soins de fin de vie. Est-ce que vous avez un droit de regard sur le jugement d'un ou des deux médecins qui sont là? Est-ce que vous pouvez vous mêler en d'autres termes à leurs décisions et à leur accord?
Bon, alors voilà, c'est un des quatre objectifs de la commission qui est créée par la loi et dont les membres sont nommés par le Conseil des ministres.
D'accord.
Alors, ces gens qui ne doivent avoir aucun lien avec chacun des cas, sinon le membre doit se retirer, comme ça arrive parfois à l'occasion. Mm-hmm. Et la commission a mission de vérifier et d'examiner le rapport que le médecin doit faire dans les 10 jours de l'administration de l'aide à mourir, comme je vous ai mentionné.
D'accord.
Donc, la commission doit voir, elle doit examiner, elle doit voir si le diagnostic correspond bien à une maladie fatale, que la personne
oui.
est capable, etc. Et elle ne met pas en cause le jugement du médecin, mais elle demande, et ça, c'est le formulaire que le ministère impose, donc c'est oui. pas la commission elle-même, le médecin doit dire quels sont les moyens qu'il a utilisé pour s'assurer que la mm-hmm. personne est apte et a bien oui. compris, a un jugement éclairé, mm-hmm. notamment en lui offert les autres alternatives, dont par exemple la sédation palliative continue, d'accord. dont on a parlé la semaine dernière.
D'accord. Bon, ben écoutez, je pense qu'encore une fois, tout cela répond à beaucoup de nos interrogations, Jean Lambert, et je vous en remercie beaucoup. C'est toujours d'une très, très grande clarté. Jean Lambert, hein, je rappelle que donc vous siégez encore à cette commission des soins de fin de vie et que vous êtes sur Canal M la bonne personne pour nous en parler à M l'été. Merci beaucoup, Jean.
Et au plaisir, à la prochaine.
D'accord, bonne journée. Voilà ce qui met un terme à M l'été pour aujourd'hui. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une très très bonne journée, qui vous remercie d'avoir pris part de façon auditive à cette émission. Merci à tous mes invités, merci à l'équipe qui me permet de venir animer ça pour vous tous les matins. À demain midi. Thank you.